Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Installée à Piégro-Laclastre, la reliure d'art qui vous accueille sur rendez-vous est tenue par Madame Korevits Isabelle.
La reliure, c'est l'opération qui consiste à refaire tout l'extérieur normalement du livre, mais on peut aussi refaire l'intérieur. Souvent, on refait tout le livre, on démonte complètement le livre. On le recoud, forcément en amont on répare s'il y a à réparer. On remet des cartons neufs et selon les besoins, soit on remet la couverture d'origine, soit on crée une autre couverture en fonction des désirs des propriétaires du livre. J'avais déjà exploré ce métier pendant mes loisirs et le livre, c'est quelque chose qui m'a toujours tenue. J'ai travaillé 5 ans et demi sur roman en tant que relieuse. On a toutes sortes de publics. On a des administrations, on a des particuliers, on a des collectionneurs, on a un petit peu tout le monde, donc c'est super. Le fait que j'ai eu envie de me mettre à mon compte, une envie d'être indépendante et puis de travailler selon ma façon, c'est-à-dire avec plaisir. J'ai fait beaucoup de marchés artisanaux, ce qui ne me rapportait pas du tout de clients, ce qui m'a permis de rencontrer des tas de gens. Et après, je me suis plus orientée vers les marchés du livre. Et là, c'est vraiment le milieu du livre. Donc, c'est forcément là où on peut trouver des clients. Par le biais d'un bouquiniste que je connais bien et à côté de qui je m'installe sur un marché tous les 15 jours à Privas, je peux avoir une clientèle régulière. Chez moi, ça va de 65 pour un petit bouquin jusqu'à, après, ça augmente selon la dimension du livre. Hein, ça peut 65 €, c'est pour une pleine toile. Après, c'est pareil, ça dépend aussi dos cuir, plat papier. Les grands bouquins, ça peut être 120, 200. Ça dépend vraiment de la couverture qu'il y a dessus. Et après, pour le temps de réparation, là, on peut ajouter du temps. Là, on fait payer notre temps pour les réparations. Et moi, je prends 30 € de l'heure. Je m'assure mes arrières en ayant un boulot à mi-temps, donc à côté. Et c'est vrai que la reliure, du coup, ça me permet de pratiquer ce métier que j'aime en étant plus détendue. J'aime beaucoup travailler avec les enfants, du coup, peut-être m'orienter vers ces boulots-là. Redonner des cours, pourquoi pas aussi, c'est quelque chose de sympa. Ça fait 80 € la journée, donc c'est une grosse journée, mais ça fait quand même cher pour un particulier. Souvent, ce que je propose aux gens, c'est de leur montrer le béaba de la reliure, et après, ils se débrouillent tout seuls. Je fonctionne avec des devis. Les gens m'apportent un livre, je leur dis combien ça va leur coûter. On n'est pas obligé de refaire entièrement un livre quand il est abîmé. Des fois, on peut refaire que ce qui est abîmé, ce qui coûte nettement moins cher. Donc je peux refaire des livres, faire des réparations, créer des albums photos, des carnets de voyage, des choses pour des situations particulières. Je fais très peu de chiffres d'affaires, donc c'est pour ça que je ne peux pas me permettre aussi d'avoir un statut artisan. Je ne pourrais pas assurer mes charges, donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler à mi-temps à côté. Mais si vraiment j'arrivais à développer ma reliure de façon importante, à ce moment-là, je prendrais le statut d'artisan et...
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale Natura 2000. Natura 2000 concerne des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. Les États membres de l'Union devraient sélectionner sur leur territoire les sites naturels qui devaient former le réseau et fournir au plus tard en juin 1995 une liste nationale des sites soumis à la formation du réseau Natura 2000. Mais la désignation des sites a pris du retard dans de nombreux pays. Pour éclaircir ce dispositif Natura 2000, nous avons ce jour dans les studios de Radio Saint-Ferréol tout un ensemble d'acteurs de notre territoire qui se mobilisent, qui se sont mobilisés, qui se mobiliseront encore autour du dispositif Natura 2000. Nous avons pour commencer Madame Catherine Brett.
Bonjour, donc je suis Catherine Brett, je suis conseillère générale de l'Isère et à ce titre vice-présidente du parc régional du Vercors en charge de la biodiversité.
Nous avons à ses côtés Florence Nil. Bonjour Florence.
Bonjour. Alors moi je suis chargée de mission Natura 2000 au parc du Vercors et j'ai en charge deux sites Natura 2000 dont celui de la vallée de la Gervanne.
Carole Tourigny. Bonjour Carole.
Bonjour. Je suis maire de la commune de Gigord-et-Lauzeron qui est concernée par une étude de périmètre Natura 2000 en ce moment.
Et enfin, nous avons donc Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane, donc je travaille à la Ligue pour la protection des oiseaux sur les questions relatives notamment aux chauves-souris qui concernent le site Natura 2000 de la vallée de la Gervanne.
Tout au long de cette émission, nous allons essayer de visiter ce dispositif Natura 2000, le contexte bien sûr qui se rapproche plus de nos latitudes avec l'installation de ce dispositif sur la vallée de la Gervanne. Nous reviendrons sur l'origine du projet. Alors Stéphane, au départ ce sont les associations naturalistes qui étaient contactées pour savoir si effectivement autour de leur périmètre d'action il y avait des zones un petit peu fragiles.
Les associations naturalistes comme la Ligue pour la protection des oiseaux, par leur travail quotidien d'inventaire, de repérage de certaines espèces, donc le cas échéant les chauves-souris, ont pu identifier des secteurs, et c'est le cas de la Gervanne, où depuis une quinzaine d'années, il y a des naturalistes qui ont mis en évidence la présence de populations remarquables de chauves-souris sur cette vallée. Et de fait, cette information a été transmise, a été portée à connaissance auprès des services de l'État. Et c'est de là que vient notamment l'injonction de la communauté européenne auprès de l'État français à désigner cette vallée pour prendre en compte les chauves-souris. La démarche Natura 2000 a permis de mobiliser du temps pour étudier plus précisément les chauves-souris de ce territoire. Et donc entre 2010 et 2011, on a réalisé un effort d'inventaire très important sur la vallée qui nous a permis de préciser les choses et savoir où vont chasser les chauves-souris, comment elles utilisent le territoire, où sont présentes les différentes espèces et en quels effectifs. Donc ce qui a permis de bien asseoir la connaissance scientifique du site. La vallée de la Gervanne, à l'échelle d'un territoire de quelques milliers d'hectares, c'est un endroit où on connaît quasiment toutes les espèces de la région Rhône-Alpes. Donc on a 29 espèces de chauves-souris qui sont présentes sur les 30 qui sont connues dans toute la région. Donc ça, c'est quelque chose d'assez unique en termes de nombre d'espèces. Et puis, on a certaines espèces qui sont présentes en effectif important, suffisamment important pour qu'on les considère comme remarquables. Il existe d'ailleurs une colonie d'une espèce qui s'appelle le murin oreiller chancré, qui est la plus importante que l'on connaisse actuellement sur tout le territoire national.
Alors maintenant, je vais donner la parole à Florence, puisque j'imagine que pour mettre en place ce réseau et cette politique européenne, il a fallu aller à la rencontre de tous les acteurs du territoire.
Alors Natura 2000, ça prend la forme de réunions de concertation autour d'un cadre qui est le comité de pilotage, ce qu'on appelle. Et là, en fait, il est défini et on a 80 membres dans ce comité de pilotage à l'heure actuelle, donc ça compte les structures de l'État, ça peut aussi englober les structures des représentants du monde agricole, les représentants du monde de la chasse, les représentants du milieu naturaliste, ou le réseau d'acteurs qui peut être concerné par la thématique. Et après, au-delà de ce comité de pilotage et de cette grande instance, on a organisé de multiples réunions depuis fin 2011, à peu près, début 2011. Donc soit à destination du monde agricole uniquement, soit dans les conseils municipaux, soit des réunions publiques. On essaye d'être le lien entre tout ce monde, tous ces acteurs qui sont concernés.
Est-ce que l'idée est derrière cela de finalement de créer une intelligence collective qui à terme donnera naissance à un véritable réseau d'acteurs, donc complètement différents et complémentaires, qui auront pris la responsabilité de mettre en application le contrat Natura 2000?
Oui, ça c'est l'idée à terme. Un comité de pilotage est censé être représenté par un élu local. Très concrètement, une fois que le périmètre sera défini, on va proposer aux acteurs locaux, en particulier au monde agricole, des mesures, ce qu'on appelle des mesures agri-environnementales territorialisées, des MAET, qui sont dans le cadre de la PAC, donc de la politique agricole commune, et on les incite, ces agriculteurs, à signer avec l'État pour aller dans le sens de la conservation de la biodiversité. Ça, ce sont des contrats qui valent pour 5 ans, et après, l'agriculteur décide ou pas de renouveler. Ça, c'est pour la partie agricole. Après, on peut avoir des mesures, des outils financiers à destination des propriétaires. Et ça prend un peu la même forme. C'est un contrat qu'on passe pour 5 ans pour que le propriétaire soit accompagné pour la gestion de ses parcelles. On a un autre outil qui est la charte Natura 2000. Et c'est de la même manière un engagement pour 5 ans pour gérer, pour aller dans le sens d'une gestion des terrains en bon père de famille, ce qu'on appelle. Pour conserver ce qui est déjà présent, et on l'a déjà dit, si cette biodiversité est présente, c'est quand même par des pratiques qui étaient déjà là, et tous ces contrats, ces MAET, ces chartes sont là pour conforter ce qui existait déjà, voire essayer de proposer une amélioration, mais déjà pour conforter ce qui existait déjà.
Carole Tourigny, vous êtes donc, je le rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, maire du village de Gigore-et-Lozeron. Vous êtes sur votre premier mandat, donc j'imagine que le dossier Natura 2000 était déjà sur votre bureau quand vous êtes arrivée.
C'est arrivé il y a 2 ou 3 ans maximum, donc ça va paraître un peu bizarre après tout ce qui a été dit, mais donc à savoir qu'aujourd'hui la concertation a été suspendue par les élus de la Gervanne qui ont fait un courrier commun pour dire qu'ils ne participeraient plus à cette concertation. Donc Florence a donné certains éléments sur le contenu de Natura 2000. Elle en a oublié un, puisqu'il y a effectivement une partie contractuelle et il y a également une partie réglementaire, et en particulier une obligation de faire des dossiers d'évaluation d'incidence pour certains projets. Depuis qu'on a commencé la concertation, il y aurait une troisième liste d'évaluation des incidences dont on n'a pas le contenu exact pour l'instant. Donc voilà, on a considéré, enfin, la concertation s'est très très mal passée, il faut le dire quand même, depuis le début, dès la première réunion ça s'est mal passé, donc la confiance n'a pas réussi à être établie en fait depuis le début. Et ce dernier élément qui vient changer un peu la règle du jeu en cours de route, et donc on nous demande de travailler sur un périmètre, de s'engager déjà sur certaines choses, alors qu'on n'a pas les conditions, enfin l'ensemble des conditions du contrat ne nous convient absolument pas. Ensuite, ça tombe à un moment où on est noyé sous les réglementations, les dossiers administratifs, que ce soit les agriculteurs, les communes, enfin tout le monde en ce moment. Parce que là, on nous dit en gros, c'est super ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, puisque votre territoire est un joyau, donc il y a une biodiversité exceptionnelle. Mais maintenant, on va prendre un petit peu le relais et donc on va fixer des cadres, enfin c'est contractuel, on vous propose des contrats, etc. Dès le premier jour, c'est pas du tout une table ronde, c'est une estrade avec des gens qui sont en face de nous, qui ont une carte qui est déjà établie, et nous, on est en face d'eux uniquement pour les écouter. Et ces gens nous montrent la carte et nous disent tout ce qui va se passer et à quoi on va aboutir. Donc c'est de là que c'est parti effectivement assez mal. Et pour ma part, donc chaque maire a fait comme il a voulu sur sa commune. Les premiers concernés sont quand même les agriculteurs. Donc moi, ce sont les personnes que j'ai consultées en premier. Voilà, les débats sont assez difficiles à chaque fois, les réunions sont lourdes à organiser, ça déclenche beaucoup de passion, donc on n'a pas multiplié non plus les rendez-vous, les réunions. Donc moi, je m'en suis tenue au débat en conseil municipal et auquel tous les habitants pouvaient participer, et aux réunions organisées avec les agriculteurs.
Why do you need it? And wait. Catherine, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, moi je voulais dire quelque chose puisque Carole a relaté donc la manière dont elle a vécu sur sa commune et puis avec les communes alentour, la démarche. Et dire que nous, effectivement, nous sommes arrivés aussi dans un contexte difficile parce qu'effectivement, il y a une ambiguïté qui s'est révélée hein, au fur et à mesure de la démarche. C'est vrai qu'a priori, toutes les réticences des acteurs locaux, c'était « on va nous imposer des choses ». Et nous, en toute honnêteté, nous avons eu le discours suivant. Le parc est là pour accompagner les acteurs, on est à côté. La démarche du parc, c'est d'être, on va dire, facilitateur, développeur d'actions nouvelles pour aider les acteurs du territoire à mieux vivre sur leur territoire, à trouver, justement, on a un rôle économique important et on le joue, je crois, assez bien, puisque... On va dire que l'agriculture dans le parc du Vercors, elle se porte plutôt mieux qu'ailleurs. Hein, on a des indicateurs qui le prouvent. Donc, effectivement, nous, on a joué le rôle de médiation qu'on s'était engagé à faire. Et c'est vrai qu'on a mal vécu aussi cet aspect réglementaire qui a été imposé en cours de la démarche. Nous n'étions pas du tout non plus au courant de cette nouvelle liste d'évaluation d'incidence qui allait s'imposer. Bon, en toute honnêteté, il faut quand même se relativiser cette troisième liste, puisque nous, Parc du Vercors, on a lancé une démarche, on a écrit donc au préfet de région pour faire part de notre, on va dire, mécontentement. On est tout à fait solidaires pour ça avec les agriculteurs et tout le monde de la chasse, mais aussi de la biodiversité, etc. À la suite de ça, ce courrier a fait réagir un certain nombre de gens, mais cette troisième liste a été maintenue. Les thématiques qui vont être retenues ont déjà fait l'objet d'un travail en Isère et qui n'est pas finalisé dans la Drôme. Et on s'est aperçu, en travaillant concrètement sur cette liste, que les thèmes qui nous semblaient le plus pénalisants pour le territoire n'ont pas été retenus. Et finalement, on s'aperçoit que cette troisième liste, qui a fait l'objet effectivement de nombreuses protestations, va être un peu vidée de son contenu sur les aspects qui nous semblaient les plus problématiques, comme le retournement de prairies.
Alors peut-être que pour ceux qui ne sont pas ni agriculteurs sur la vallée de la Gervanne, ni habitants de la vallée de la Gervanne, on pourrait parler de la méthode qu'il va falloir mettre en place si on veut rentrer dans cette charte Natura 2000. Et quelles aides vont-ils pouvoir avoir en échange?
Pour vous donner un ordre d'idée, sur le territoire de la Bourne qu'a cité Catherine, on a mobilisé une enveloppe financière pour l'ensemble des agriculteurs qui était de 750 000 euros pour 5 ans à destination du monde agricole. Et donc ça pouvait représenter une trentaine de contractualisants qui avaient cette somme-là à leur portée de main. Ou alors, j'ai un autre exemple sur les alpages du site de la réserve des hauts plateaux du Vercors ou encore d'un site en Isère sur la Molière. Enfin, voilà. Donc, ça concerne 18 alpages et on leur a proposé ces mesures agri-environnementales et donc ça représentait un montant de 1 million d'euros. Et ils ont tous contractualisé. Les 18 alpages ont signé les mesures agri-environnementales sur 5 ans. Ces contrats se sont terminés l'année dernière et cette année. Et ils sont tous repartis sur des nouveaux contrats qui les réengagent sur 5 ans. Voilà, donc ça c'est concrètement ce qu'on peut apporter au monde agricole. Ensuite, on a également des contrats Natura 2000. Ça peut être des contrats qu'on va signer avec des propriétaires pour réouvrir des parcelles, c'est-à-dire des parcelles qui se sont complètement embroussaillées. On a quand même bien cette problématique sur la vallée de la Gervanne. Et on va leur donner la possibilité de faire ces travaux qui sont lourds et où les agriculteurs n'ont pas forcément le temps ni les moyens pour le faire. Et là, ça, c'est pris en charge intégralement. Enfin, voilà, il y a un dossier à monter, on en a déjà monté, ça peut représenter des travaux de 30 000 euros par exemple, et c'est pris en charge par l'État et l'Europe.
Alors pour aller un petit peu plus loin, la plupart des agriculteurs à qui on demande de passer en bio disent bah, « nous si on nous paye, on passe en bio ». Est-ce que là c'est pas un petit peu la même réflexion, Carole ?
Parce que les agriculteurs en ont marre qu'on leur mette toujours la carotte de l'argent comme si avec ça qui les intéressait. Ils préféraient vivre de leur travail que de toutes les subventions ou les petites primes qu'on est prêt à leur octroyer avec tout un tas de conditions et de dossiers administratifs à remplir qui font qu'ils ne font plus leur métier. On ne leur explique même pas. Enfin, je trouve ça assez incroyable tout au long des différentes réunions, en quoi une chauve-souris participe de l'agriculture, enfin de cette biodiversité, du fonctionnement d'un écosystème, etc. Quel est son intérêt d'être sur le territoire ? Qu'est-ce qui en fait la richesse du territoire, y compris pour les agriculteurs ? Non, on a parlé uniquement que de ces contrats, si vous faites ça, enfin, on peut mettre ça en place, vous gagnerez tant à l'hectare, etc., mais dans telles conditions, enfin, des trucs super compliqués. Voilà, on s'est arrêté à ce type de discussion, mais que c'est assez contre-productif, et que, effectivement, cette biodiversité dont les agriculteurs, enfin, et les habitants du territoire sont très fiers, aujourd'hui, enfin, tout le monde a l'air d'avoir une crainte pas possible qu'il y ait des chauves-souris chez soi, parce qu'on a l'impression qu'on pourra plus rien faire si on a des chauves-souris, alors qu'avant, elles participaient de notre quotidien, et voilà. On ne se désintéresse pas pour autant de la biodiversité sur notre territoire, puisqu'il y a un contrat biodiversité, Stéphane est bien placé pour le savoir, il y participe. Donc voilà, on a une démarche de protection de la biodiversité, mais qui ne passe ni par la contrainte, ni par le réglementaire, ni même par l'appât du gain. Enfin voilà, je pense qu'il y a suffisamment de quoi travailler sur le territoire pour réduire ces clivages, et que pour l'instant, l'étude d'implantation du contrat Natura 2000 a complètement renforcé ces clivages, et là je trouve qu'on arrive à des situations mais totalement absurdes et catastrophiques, quoi. Voilà. Je suis très déçue de ce qui se passe sur le territoire, et j'aurais préféré qu'on mette toute cette énergie et ces compétences à réduire ces clivages, à s'expliquer en quoi on a besoin d'avoir des chauves-souris, des agriculteurs, etc., travailler ensemble. Ça aurait été plus intéressant.
Stéphane, qu'est-ce que va pouvoir permettre Natura 2000 pour des associations naturalistes ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en plus ?
Nous, on interviendra comme assistant technique, on va dire, et expert scientifique. Bien entendu, Natura 2000 peut aussi nous permettre de poursuivre l'amélioration de la connaissance, et donc notamment tous les aspects de suivi de population, puisque ces colonies dont j'ai parlé tout à l'heure, il est intéressant de les suivre dans le temps pour voir leur évolution, voir si elles progressent, si elles régressent ou si elles sont plutôt stables. Donc Natura 2000 pourrait permettre pour une association comme la nôtre de poursuivre notre travail de connaissances scientifiques aussi.
De toute façon, Natura 2000, c'est une réalité, que ce soit dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 2 ans, Natura 2000 verra le jour. Donc pour parler plus du Natura 2000 qui nous concerne sur la vallée de la Gervanne, qu'est-il temps de mettre en place aujourd'hui pour calmer les esprits qui ont un peu surchauffé et peut-être retrouver le chemin d'une table où se passera une réelle rencontre. À qui veut, Catherine ?
Nous, on ressent bien sûr tout ce qu'a dit Carole, on le ressent bien sûr et on suit ça de très près. Rappeler quand même que les choses évoluent, c'est-à-dire que toutes ces groupes de travail qu'a animé Florence, etc., fait que quand même, quand on rentre dans le détail, qu'on n'est pas dans l'invective, qu'on est vraiment dans la discussion, on arrive à faire comprendre que il n'y aura pas quand même des énormes contraintes. Par exemple, la chasse est autorisée, la pêche est autorisée, alors qu'on est arrivé dans certaines réunions où on nous expliquait que voilà, les chasseurs étaient là parce que on allait tout remettre en cause. Non, c'est pas du tout ça. Sur la thématique agricole, on est tout à fait conscient que c'est les agriculteurs qui ont façonné ce paysage et qui ont fait en sorte qu'il y ait cette biodiversité, ok. Mais on sait aussi qu'ils ont des difficultés à vivre et à maintenir leurs exploitations. Donc voilà, bon, bien sûr, s'ils pouvaient vivre de leurs activités, on est tous d'accord là-dessus, ça serait beaucoup mieux. Dire que, de toute façon, nous, on joue vraiment notre rôle de médiation et on n'a pas voulu, et je le répète, on n'a pas voulu, on va dire, faire ce qui nous était imposé en termes de délai, en termes de périmètre, puisque c'est pas notre rôle. Hein. Et on a plusieurs fois menacé d'arrêter ce type de travail si on n'avait pas les coups des franges. Donc nous, notre idée, c'est d'arriver à définir avec les communes et avec les personnes concernées ce fameux périmètre. Nous irons au bout de notre mission, mais si l'État considère que notre travail n'a pas été satisfaisant par rapport à ce qui nous était imposé, tant pis.
C'est le préfet qui reprendra le dossier ?
Oui, mais je pense que, on va dire que, et c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on a réussi quand même à faire entendre nos protestations. Alors là, le débat est donc dans les mains justement du préfet de la Drôme là, pour la fameuse liste d'évaluation des incidences. On espère qu'il tiendra compte justement des réserves que nous avons émises à la suite justement des réunions de concertation sur cette fameuse liste réglementaire.
Carole, pour rejoindre les tables de concertation et de rencontre et de partage, d'après vous, quelles seraient les possibilités ?
Je ne suis pas sûre qu'on rejoindra les tables de concertation, on verra. Je voulais juste préciser quand même que, paradoxalement, c'est assez clair sur le territoire. Il me semble que la séparation est bien faite entre le parc et les services de l'État. Il n'y a pas de forte animosité, en réalité, contre le parc, enfin plus aujourd'hui, même si...
Il y en a eu.
Je pense que les Catherine ou Florence vivent parfois des moments difficiles en réunion. Hein. On s'en excuse, d'ailleurs. Mais voilà, je pense qu'on fait quand même bien la distinction... entre les deux. En revanche, ce qui est clair, c'est que effectivement, une concertation, ça nécessite de la confiance. Et parfois, acquérir de la confiance nécessite du temps. Donc déjà, quand l'État fixe des délais, pour nous, c'est pas de la concertation. Donc quand ils auront décidé réellement de faire la concertation, on y participera éventuellement. Tant que ce sera une mascarade de concertation, là, je vais pas dire nous, en réalité, je vais parler pour moi, je n'y participerai plus. Voilà.
Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient se faire un avis, bon, c'est pas forcément facile, vous auriez peut-être des conseils de lecture, des choses qui sont relativement vulgarisées et simples pour se faire une première idée de ce qu'est Natura 2000.
Oui, sur le site internet du parc, on a une page sur Natura 2000, sur les différents sites du parc, et on essaie de mettre en ligne régulièrement des documents, les documents de gestion notamment. Bon, alors c'est pas forcément simple, hein, c'est des gros pavés.
Concernant les chauves-souris, il existe en effet de la littérature, des ouvrages récents qui sont à jour et qui présentent bon, l'état des connaissances actuelles sur les chauves-souris, donc qui se trouvent dans toutes les bonnes librairies.
L'épine dromoise aussi, peut-être
Les épines dromoises avaient publié quelque chose sur les chauves-souris il y a quelques années de ça, je crois que ça date de 6 ou 7 ans.
Un dossier spécial.
Et puis, bien entendu, il existe des sites spécialisés, donc le site notamment du Muséum d'histoire naturelle de Bourges, qui présente en profondeur les chauves-souris, et puis le site de la Société française pour la protection des mammifères, qui lui aussi présente... toutes les facettes de l'écologie de ces espèces.
Voilà, le tour de table est terminé. Le temps qui nous était imparti vient de se terminer lui aussi. Merci à vous.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioValley.